le magazine des Nations Unies.
Martin Kobler s'en va après un peu plus de 2 ans passé à la tête de la MONUSCO. Le magazine des Nations Unies consacre une édition spéciale à cet homme et à son mandat. Mercredi dernier, il a tenu sa dernière conférence de presse à Kinshasa et le jour de son départ, le vendredi, une interview avec le magazine des Nations Unies. C'est un homme satisfait et fier, mais aussi frustré au regard du bilan de sa mission. Nous allons aussi nous rendre à Kigali, la capitale rwandaise, où M. Kobler a assisté à la commémoration de la Journée internationale de la paix à l'invitation de l'ONG Peace One Day. Enfin, l'autre actualité, c'est la campagne d'inscription des enfants de 6 à 7 ans à l'école primaire. L'UNICEF expérimente une stratégie très originale du porte-à-porte. Objectif, inscrire et maintenir au moins 120 000 enfants vulnérables d'ici la fin de 2015 sur le territoire national. Dans cette édition, coup de projecteur sur Kingabwa, l'un des quartiers défavorisés de la capitale. Voilà tout pour les titres.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour et merci de votre fidélité au magazine des Nations Unies. Je l'ai dit au sommaire, Martin Kobler est arrivé fin mandat après 26 mois de prestations comme représentant spécial du secrétaire général de l'ONU et chef de la MONUSCO en République démocratique du Congo. Faisant son propre bilan, M. Kobler a dit quitter la RDC à la fois avec 3 sentiments, satisfaction, fierté et frustration. Les détails avec Honoré Missenga Kalala.
Gérer une mission de l'ONU est un véritable défi dans un pays aussi vaste que la RDC, reconnaît d'emblée le chef de la MONUSCO sortant. Un défi que Martin Kobler espère, dit-il, avoir relevé avec ses collègues, mais pas comme il l'aurait souhaité, d'où des sentiments mitigés qui l'animent au moment où il quitte le pays.
Le premier sentiment, c'est un sentiment de satisfaction. Je pars avec une profonde satisfaction sur le travail que nous avons achevé pendant les 2 dernières années. La première fois dans l'histoire moderne des Nations Unies, les Nations Unies ont pris la décision d'utiliser la force et la brigade d'intervention de neutraliser un groupe armé, les M23. C'est pourquoi je suis satisfait avec ce qu'on a achevé. Je suis satisfait avec le suivi que nous avons eu comme les îlots de stabilité. Pinga, Kamango, Shabunda, je pourrais citer d'autres îlots de stabilité.
Autre sentiment, Martin Kobler se dit fier. Fier d'avoir travaillé avec la force de l'ONU, fier de l'amélioration à certains égards de l'image de la MONUSCO au sein de l'opinion congolaise, mais aussi fier d'avoir bien coopéré avec les FARDC, le gouvernement congolais et la société civile. Toutefois, le représentant spécial de Ban Ki-moon s'en va aussi avec un sentiment d'un travail au goût inachevé, d'où sa frustration.
Mais laissez-moi parler un peu des frustrations aussi, parce que après 2 ans, alors pas toutes les choses sont résolues ici. Les frustrations concernent premièrement la coopération maintenant avec les FRDC parce que c'est bloqué. C'est bloqué dans tout le nord Kivu, le sud Kivu. Il faut vraiment, vraiment débloquer parce que seulement l'unité fait la force. Deuxième élément, la restitution de l'autorité de l'ordre, pas seulement la sécurité, aussi la lutte contre l'impunité, et ça nécessite aussi d'avoir les tribunaux de paix partout. Troisième élément, c'est la situation générale dans votre pays, en particulier par rapport aux élections maintenant. Il faut bien observer l'effet maintenant du dialogue qui prend place entre l'opposition, les G7, le gouvernement, le président ici, parce que c'est aussi une situation qui doit être gérée.
Et pour Martin Kobler, ce sont ces points de frustration qui vont déterminer le départ graduel de la MONUSCO de la RDC.
L'autre actualité de cette semaine, c'est la poursuite à Kinshasa de la campagne d'inscription des enfants de 6 à 7 ans à l'école primaire. L'UNICEF expérimente la stratégie dite porte-à-porte. Objectif, faire inscrire le plus grand nombre d'enfants vulnérables dans les quartiers défavorisés de la capitale comme à Kingabwa. Jean-Pierre Elali Koko a assisté à cette opération. Suivez son reportage.
C'est l'aînée, elle a 7 ans.
Nous sommes ici sur l'avenue Makula numéro 26 à Kingabwa, l'un des quartiers défavorisés de la capitale. Sandra, 7 ans, est contente. Elle pourra aller à l'école dès ce mercredi comme d'autres enfants. Ceci à la faveur de la stratégie porte-à-porte initiée par l'UNICEF dans le cadre de la campagne d'inscription des enfants de 6 à 7 ans à l'école primaire. Cette stratégie essentielle, selon l'UNICEF, vise à faire inscrire en 2015 120 000 enfants vulnérables vivant en dehors de l'école. Pascal Villeneuve, représentant de l'UNICEF RDC, est lui-même sur le terrain.
Passer de maison en maison, vérifier si les enfants d'âge scolaire étaient effectivement scolarisés. Nous avons pu constater que certains des enfants ne sont pas scolarisés, surtout parce que les moyens manquent au niveau des familles pour payer les frais d'inscription.
Pour les moyens, la Fondation Qatar et l'UNICEF s'en occupent à travers Caritas Congo.
À travers le programme appuyé par l'UNICEF, la Fondation Qatar et Caritas, les moyens existent pour scolariser ces enfants.
Et ceci à la grande satisfaction de M. Wembu Koko Paul, directeur de l'EP1 Kingabwa.
Avec l'appui de l'UNICEF, puis du gouvernement, en tout cas, je suis très content de cette opération.
Pour rappel, le gouvernement a lancé le 17 août dernier la campagne d'inscription des enfants de 6 à 7 ans à l'école primaire avec l'appui de l'UNICEF. Cette opération vise 2 millions d'enfants vivant en dehors de l'école en République démocratique du Congo.
Magazine des Nations Unies. Décryptage.
La République démocratique du Congo prépare son programme d'investissement du projet Accès pour tous à l'énergie durable pour répondre à l'initiative Énergie durable pour tous du secrétaire général de l'ONU. Les magazines vous proposent pour une seconde fois l'entretien que le conseiller au programme changement climatique et énergie au bureau du PNUD RDC à Kinshasa, Idesbald Chinamula, nous a accordé. Un entretien qu'il a accordé à Honoré Misenga Kalala.
Idesbald Chinamura, bonjour.
Bonjour.
Le PNUD appuie la RDC dans la mise en place d'un agenda et d'un programme d'investissement pour répondre à l'initiative Énergie durable pour tous. C'est quoi l'initiative Énergie durable pour tous?
L'initiative Énergie durable pour tous est une initiative lancée par le secrétaire général des Nations Unies pour mobiliser les politiques et tous les différents acteurs du développement dans les défis de la lutte contre la pauvreté. En effet, il a été constaté que les pays n'avancent pas beaucoup dans leurs programmes de développement qui sont mis en place simplement parce qu'il y a un déficit en termes énergétiques. À ce jour, au XXIe siècle, à l'ère de la révolution industrielle et révolution technologique, la plupart des pays, malheureusement, continuent toujours de recourir aux technologies traditionnelles en ce qui concerne l'énergie, notamment la biomasse énergétique qui représente pour la RDC 92% du bilan énergétique. À ce stade, aujourd'hui, ça veut dire quoi? La biomasse énergétique, c'est le charbon de bois, c'est le bois de fée. C'est cela qui constitue l'essentiel de la consommation énergétique en RDC. Aujourd'hui, au XXIe siècle, ce sont des situations quasiment inacceptables.
Alors, quels sont les objectifs de cette initiative du secrétaire général?
Les objectifs, comme je l'ai mentionné, c'est vraiment en ligne droite avec les objectifs de la lutte contre la pauvreté. Je vais vous donner quelques exemples. On vient de faire la revue des OMD pour la République démocratique du Congo. OMD, c'est Objectif du millénaire pour le développement. On a constaté, par exemple, qu'on a fait suffisamment de progrès sur les OMD 2, 3, 4, c'est-à-dire l'éducation, la parité du genre à l'éducation, la question des femmes assistées médicalement dans l'accouchement, la question également des vaccins. On a fait beaucoup de progrès. Par contre, l'OMD 1 sur la lutte contre la pauvreté, on n'a pas fait suffisamment du progrès, malgré tous les cadres, les politiques formulées. Et là-dessus, on constate effectivement que la question de l'énergie a été marginalisée dans la mise en œuvre des OMD, surtout au niveau de l'OMD 7 qui concerne l'environnement, changement climatique. Et donc ça, c'est une des leçons qu'on vient de tirer dans cet exercice en faisant des recommandations que dans la perspective des ODD, Objectifs de développement durable, qui va succéder donc aux OMD, qu'on puisse mettre l'énergie au centre. Le secrétaire général des Nations Unies avait anticipé quasiment cette situation en préconisant effectivement la question de l'énergie qui a des ramifications, des liens avec tous les secteurs de développement. Avec l'énergie, on va éclairer les villages, les hôpitaux, les écoles. Avec l'énergie, on va promouvoir la petite transformation. Avec l'énergie, on va diversifier l'économie. Et ça, ça fait défaut. Vous savez que la croissance de la RDC est portée à 50-60% par l'industrie primaire et extractive. Il n'y a pas une petite industrie et par manque justement d'énergie.
Et le PNUD a aidé le gouvernement à mettre en place ce que vous avez appelé l'Atlas des énergies renouvelables. C'est toujours dans le cadre de ce programme Initiative Énergie Durable.
Le PNUD est très très engagé depuis 3 ans, 4 ans maintenant. Le PNUD accompagne la RDC dans son ambition effectivement d'être un leader sur les questions énergétiques. Donc la première chose c'est effectivement essayer de faire un état de lieu. On a aidé les pays à réaliser son état de lieu province par province et cet état de lieu a conduit à l'élaboration de l'Atlas des énergies renouvelables qui en fait recense les potentiels globaux du pays et identifie, localise environ 780 sites pour le développement des sites hydroélectriques, c'est-à-dire des solutions décentralisées. Dans les 145 territoires de la RDC, c'est possible. L'Atlas est en train de promouvoir un nouveau business en RDC pour montrer que la RDC, ce n'est pas seulement les secteurs miniers, c'est aussi les marchés de l'électricité. Il est possible de faire du business dans les secteurs de l'énergie et c'est largement décentralisé au-delà des INGA qui étaient les seuls site énergétique connu en RDC.
Donc chaque territoire en RDC a son potentiel énergétique.
Chaque territoire dispose de quoi répondre à ses besoins énergétiques. L'Atlas l'a démontré et donc aujourd'hui avec les 26 provinces également, on est en train de faire une mise à jour de cet Atlas et chacune de ces 26 provinces aussi a les potentiels nécessaires pour répondre à ses besoins.
Alors je reviens au programme Initiative Énergie Durable pour tous. Il s'agit dans le cas présent d'un projet qui porte à la fois sur un agenda, un programme à mettre en place. Comment peut-on comprendre les deux concepts, agenda et programme?
L'agenda, c'est en fait comment on va articuler la mise en œuvre de l'initiative énergie durable pour tous. Un agenda, c'est on doit par exemple se fixer un horizon temporaire. Et là-dessus, la RDC est clairement en train de se prononcer pour 15 ans, c'est-à-dire de 2016 à 2030. Et on va probablement aller vers 3 quinquennats, 2016 à 2020, 2021, 2025 et puis 2026, 2030. Et pour chaque quinquennat, il y aura bien sûr des objectifs qui seront fixés. C'est ça l'agenda du pays, les cadres à mettre en place, les structures et puis quels sont les programmes effectivement qui vont être mis en œuvre pour chaque quinquennat qui va être fixé, quelles sont les cibles et les objectifs qu'on fixe pour chaque programme.
Et vous pensez que dans cette échéance de 15 ans, la RDC peut atteindre ses objectifs?
La RDC peut avancer suffisamment. Comme je l'ai dit, la RDC dispose d'un potentiel énorme, dispose de beaucoup d'atouts, un potentiel qui est largement décentralisé, à portée de chaque territoire, et puis c'est des ressources qui sont facilement mobilisables. Et si on fait cela en boucle, on pourra alimenter toute la RDC. Donc c'est possible effectivement pour la RDC d'avancer et donc de se fixer des objectifs ambitieux.
Donc pour la RDC, il faut absolument aller au-delà de INGA.
Oui, bien entendu, ça c'est clair, ça c'est un message clair qui est donné, qu'il faut, avec INGA, ce n'est pas possible et ce n'est pas économiquement rentable d'électrifier l'ensemble du pays. INGA a la vocation régionale et même continentale. INGA, c'est pour des gros investissements, comme les partenariats avec l'Afrique du Sud, avec le Nigeria, avec d'autres pays. Par contre, pour la RDC, ce sont les solutions décentralisées que l'Atlas des énergies renouvelables est en train de montrer.
Oui, en quoi consiste donc concrètement l'appui du PNUD dans ces projets?
Le PNUD est en train de mobiliser les autorités au plus haut niveau. C'est un processus qui ne doit pas seulement être un processus technique, mais c'est un processus aussi politique. Il faut faire passer les messages clairs que nous sommes dans un contexte difficile, mais il y a beaucoup d'atouts. Et donc, on voudrait vraiment soutenir l'engagement des hommes politiques au plus haut niveau et aussi soutenir les dialogues intersectoriels. L'énergie, c'est multisectoriel, ça dessert plusieurs secteurs. Il faut faciliter aussi ces dialogues entre plusieurs secteurs qui vont bénéficier de l'énergie. Et ça, l'appui du PNUD est très important pour faciliter ces dialogues. L'appui du PNUD également est très important pour aider les pays à développer une stratégie qui va justement lui permettre de voir comment aborder, comment définir ses priorités, les aligner, voir comment les adresser aussi. C'est grâce à l'appui du PNUD que la RDC a été alignée parmi les 6 pays actuellement engagés dans la formulation d'un agenda d'action pays et les programmes d'investissement. Et les seuls pays francophones à ce jour.
Donc le PNUD fait aussi le plaidoyer pour la RDC.
Bien entendu que nous sommes en train de préparer l'édition 2015 du FODER qui va permettre la validation de cet agenda. La RDC va participer à la COP21 à Paris sur le changement climatique. Et c'est des opportunités immenses pour mobiliser les partenaires d'accompagnement. Comme je vous l'ai dit déjà, l'agenda d'action pays va être chiffré en milliards. En tout cas, ça va être des milliards. Et ces milliards, il faut les mobiliser.
Idesbal de Chinamora, merci.
Deux nouvelles en bref. La peine de Thomas Lubanga Dilo ne sera pas réduite pour le moment. Décision des juges de la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale, CPI. Une décision prise à l'unanimité mardi 22 septembre par les 3 juges de cette chambre après le réexamen de la peine prononcée à l'encontre de Thomas Lubanga. Toutefois, la prochaine révision de la réduction de la peine aurait lieu dans 2 ans. Rappelons que le 10 juillet 2012, M. Lubanga a été condamné à 14 ans d'emprisonnement après avoir été reconnu coupable des crimes de conscription et d'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans. Le 26 septembre, c'était hier samedi, une date consacrée, journée internationale pour l'élimination totale des armes nucléaires. À cette occasion, dans son message aux États du monde, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, souligne que l'élimination des armes nucléaires devrait aussi permettre de libérer un volume considérable de ressources qui pourraient être affectées à la mise en œuvre du programme de développement durable à l'horizon 2030. Par contre, poursuit-il, les conséquences de tout nouvel emploi des armes nucléaires, qu'ils soient intentionnelles ou accidentelles, seraient épouvantables.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Notre invité spécial de ce dimanche est Martin Kobler. Au dernier jour de son mandat, le représentant spécial de Ban Ki-moon a daigné accorder une interview au magazine des Nations Unies. Il parle de son bilan teinté d'un grand sentiment de satisfaction et de fierté, mais aussi des défis qui restent à relever dans le futur au Congo démocratique. Suivez donc M. Kobler qui répond aux questions d'Honoré Missenga Kalala.
Martin Kobler, bonjour.
Bonjour.
Vous avez pris vos fonctions en RDC le 13 août 2013. Vous avez fait mandat le 31 octobre 2015. Ça va donc faire exactement 26 mois et quelques 2 semaines. Quel bilan vous faites-vous de votre mandat en RDC?
Voilà, je pars ici avec un sentiment de satisfaction et fierté. Satisfaction parce qu'on a vraiment achevé beaucoup avec la chute du M23. Alors c'était le début au mois d'août 2013 et ça a développé une dynamique qui est encore ici. Si vous voyez Goma aujourd'hui, Goma au mois d'août 2013, on avait vraiment une différence comme jour et nuit. C'est très satisfaisant, je suis très fier. La professionnalité et l'engagement de nos collègues, tout le monde, et c'était vraiment la période la plus satisfaisante dans ma vie professionnelle.
Oui, mais il y a des choses que vous auriez voulu faire, mais que vous n'avez pas pu réaliser pendant ce mandat.
Mais voilà, la MONUC, MONUSCO est ici dans le pays 16 ans. On avait beaucoup de représentants spéciaux ici, part toujours avec aussi un sentiment qu'on n'a pas achevé tout, parce que nous avons maintenant le blocage des opérations contre les FDLR. Hein? On a le blocage parce que le gouvernement a décidé de ne pas coopérer avec la MONUSCO. Il faut le débloquer. C'est très important parce que l'unité fait la force. C'est inachevé. Je me déplace à New York maintenant pour la réunion du Conseil de sécurité. Le ministre des Affaires étrangères, M. Tshibanda, est là. Et c'est pourquoi c'est très important qu'on continue la discussion. Mais je suis aussi très fier que nous avons maintenu une très bonne relation avec le gouvernement. Le président a envoyé son appréciation via le premier ministre hier et il a dit qu'il est satisfait avec le travail. Mais naturellement, on a des divergences de vues, comme les opérations à l'Est, et ça doit être repris parce que ici je suis très très confiant que ça va marcher.
Martin Kobler, en principe, votre séjour devrait aller jusqu'au 31 octobre, mais vous quittez la RDC ce soir, le 25 septembre. Pourquoi ce départ est quelque peu précipité?
Non, c'est pas du tout précipité, parce que le calendrier du Conseil de sécurité, c'était pas fait pour moi. Nous avons le lundi déjà, c'est pourquoi je dois partir. Le lundi, nous avons le sommet avec le président Obama au sein des Nations Unies sur le maintien de la paix. C'est très important le lundi. Le mardi, nous avons la réunion avec les chefs de l'État, à New York aussi, de mécanisme régional de suivi de l'accord d'Addis Abeba. Et puis le 6 octobre, on a la réunion du Conseil de sécurité. C'est pourquoi maintenant les jours sont remplis avec beaucoup d'activités au sein des Nations Unies. Et puis, permettez-moi, je vais faire 2 semaines de vacances.
Alors, Lévi, vous avez parlé avec le président américain Obama. Est-ce que la situation de la RDC sera à l'ordre du jour?
Ah oui, la situation de la RDC est à l'ordre du jour. Nous avons le ministre des Affaires étrangères qui est là, avec toute une équipe. Le président lui-même, on m'a dit, ne va pas attendre. Mais les autres chefs de l'État sont là. Le mécanisme de suivi régional, c'est très important, parce que le président Kagame et le président Zuma de l'Afrique du Sud, tous les dirigeants, le président M. Veni sera là, tous les dirigeants de la région seront là, et c'est toujours une occasion, une très bonne occasion, de discuter les problèmes, mais aussi les solutions. de la région des Grands Lacs.
Monsieur le représentant spécial, votre départ de la RDC intervient alors que le pays vit dans un climat politique tendu autour du débat sur l'impératif du respect de la Constitution, notamment en matière du processus électoral. Vous étiez disposé à jouer les bons offices entre la majorité présidentielle et l'opposition. Vous ne cessez de le répéter, mais vous partez sans avoir obtenu le dialogue entre acteurs politiques congolais. Est-ce qu'en quittant la RDC, vous croyez vraiment encore en ce dialogue dans le temps qui reste par rapport au délai constitutionnel?
Voilà, vous avez parlé d'une situation tendue. Mais je vous dis, alors, dans une démocratie, la période électorale, pas seulement au Congo, aussi en Allemagne, mon pays d'origine, c'est aussi tendu. Parce que une période électorale, c'est toujours alors une période qui est divisive, parce que ceux qui sont au pouvoir veulent rester au pouvoir, et ceux l'opposition qui ne sont pas au pouvoir, ils veulent prendre le pouvoir. Alors, c'est une chose qui est tout à fait normale dans un pays démocratique. Par rapport à votre question, nous nous focalisons sur les élections présidentielles et législatives au mois de novembre 2016. Maintenant, nous sommes au mois de septembre 2015, on a assez de temps de régler les problèmes, d'avoir la séquence pour le calendrier électoral, de résoudre le problème de l'inclusion de nouveaux majeurs dans le fichier électoral, de trouver l'argent, le budget pour les élections dans ce pays qui a une infrastructure assez faible. C'est pourquoi il faut immédiatement adresser les problèmes, les résoudre, et puis je suis confiant techniquement que les élections présidentielles législatives puissent prendre place au mois de novembre 2016.
Alors, M. Martin Kobler, au moment où vous quittez la RDC, quel est votre message en direction du peuple congolais et des acteurs politiques congolais?
Voilà, merci bien pour cette question qui est une question très très facile à répondre. Mon message au peuple congolais, c'est une déclaration d'amour. Parce que je suis tombé en amour avec le peuple congolais, c'est pourquoi mon départ ici est très très difficile émotionnellement. J'ai voyagé beaucoup, j'ai survolé avec nos hélicoptères, nos avions, des centaines d'heures ici, la République démocratique du Congo. Même dans les parcs nationaux, Kundalungu, à Epulu, la réserve Kasokapi, j'ai monté le Nyiragongo. J'ai marché les villages, j'ai parlé avec les mamans du marché et j'ai toujours essayé de maintenir le contact avec la population. Ça m'a beaucoup touché. Le contact avec la population, je dis toujours, oui, vous avez des richesses sous terre, mais la vraie richesse, c'est sur la terre. C'est la population, les hommes, les femmes, les jeunes du Congo, c'était très important. J'admire l'hospitalité, la cordialité du peuple congolais. J'admire la nature de ces pays et je vous souhaite bonne chance au futur.
Et votre prochain poste d'attache, certaines indications parlent déjà de la Libye.
Non, c'est pas encore décidé. Je vais attendre. Je voudrais bien rester dans le système onusien, mais je peux aussi rentrer en Allemagne parce que je viens du ministère des Affaires allemand et j'ai toujours un billet de retour en Allemagne aussi.
Martin Kobler, peut-être avant de terminer, bonjour ou au revoir aux Congolais, aux auditeurs de Radio Capi, dans un ou deux mots d'une langue congolaise, le Swahili, le Lingala ou le Chiluba par exemple.
Voilà, c'est une chose que je regrette vraiment parce qu'on a commencé ici à travailler immédiatement, normalement ce que je fais, alors c'est d'apprendre les langues comme le Lingala et tout ça. Mais je ne peux pas dire après 2 ans, peut-être maintenant. Et ça, je regrette beaucoup parce que je suis convaincu que c'est à travers la langue qu'on peut atteindre les cœurs de la population. C'est pourquoi, merci bien, tout le monde, je le dis en français, et c'était vraiment une période satisfaisante ici. Merci bien, bonne chance au peuple congolais ici en RDC.
Martin Kobler, merci et bonne chance aussi pour la suite de votre carrière dans le système des Nations Unies.
Voilà, merci bien et bonne chance à vous tous.
Une fois n'est pas coutume, rendons-nous à Kigali où Martin Kobler était invité à prendre part à la commémoration de la Journée internationale de la paix. C'était le lundi 21 septembre. La cérémonie a eu lieu au stade olympique à Maoro. Gabriel Wamenya a accompagné le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC dans la capitale rwandaise.
sur l'esplanade du stade olympique à Mao que plus de 3000 personnes, dont la plupart sont des jeunes, se sont réunies pour commémorer la dite journée. Musique et danse exhibée par les artistes venus du Rwanda, de la RDC, du Kenya, de l'Ouganda et de la Tanzanie étaient au rendez-vous. Les artistes sud-africains, mozambicains et du Nigeria ont fait partie des artistes qui ont agrémenté la journée. Tous ces artistes avaient un seul message dans leurs exhibitions, investir dans la jeunesse. Dans les Peace Village, quelques organisations ont exposé des livres portant l'effigie du président rwandais où l'on pouvait lire compréhension, unité et réconciliation. Pour les quelques opinions interrogées au stade Amaro, la commémoration de cette journée à Kigali traduit les souhaits du peuple rwandais à sceller la paix et à cultiver l'esprit d'amour dans les pays voisins pour le développement de toute la sous-région des Grands Lacs. Depuis Kigali, Gabriel Wamenya, Radio Kapi.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
Suivez encore cette question et la réponse de Martin Kobler.
Les notes du journal Opinion. Croyez-vous pas que la fin de votre mandat pourrait ralentir l'épreuve du processus de stabilisation dans la partie est de la RDC?
Comme je dis, les Nations Unies restent. La force reste dans une manière un peu réduite maintenant, mais c'est pas la fin de la stabilisation, au contraire. Je suis sûr qu'un remplacement, il va continuer le travail des Nations Unies. C'est pas une matière de la personnalité, non. On continue d'être engagé à l'Est pour le combat contre les groupes armés. On reste engagé avec la restitution de l'autorité de là, de vous aider, d'aider au gouvernement. J'ai dit au revoir au gouverneur. J'ai dit au revoir aussi à la population à Goma. Et je les ai assurés, les Nations Unies, ils restent ici pour vous soutenir de vraiment mettre en œuvre les mesures de stabilité. Et le développement économique, encore une fois, c'est très important.
Magazine des Nations Unies. Portrait du jour.
Bonjour, chers auditeurs, chères auditrices. Mon nom est Abel Cavana, je suis d'origine irlandaise, espagnole, j'ai grandi en France, vécu un peu au Pérou, en Amérique du Sud, ainsi qu'en Allemagne. Mon état matrimonial, je suis fiancé, je me marie au mois de novembre avec une charmante jeune femme vénézuélienne du nom de Melissa. Quant à ma formation, j'ai suivi un premier master en sciences de l'information et de la communication, durant lequel j'ai inauguré des échanges bilatéraux entre la France et le Pérou. Puis j'ai réalisé un second master en cinéma documentaire, écrire le réel. Ensuite je me suis lancé dans la réalisation documentaire. J'ai réalisé 3-4 films, travaillé comme caméraman, travaillé un peu dans le milieu de l'art contemporain, notamment avec le Frénois, le studio national d'art contemporain à Lille en France. Je suis à la MONUSCO depuis bientôt une année, 11 mois pour être plus précis. Mes fonctions, c'est d'écrire avec de la lumière pour cette grande organisation. En d'autres termes, je suis le photographe officiel de la MONUSCO. Mes tâches quotidiennes sont multiples et variées. Ça peut être couvrir une rencontre officielle entre Martin Kobler, le SRSJ, et des officiels ici à Kinshasa, ou bien le suivre sur le terrain, notamment la partie est du pays, suivre la force également, le Force Commander Santos Cruz notamment, que j'ai suivi à Beni dès mon arrivée. Mon baptême a d'ailleurs eu lieu à Beni. Mes autres tâches consistent en nourrir la base de données des archives photographiques de la MONUSCO, alimenter pour les publications, pour les diffusions sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, Twitter, notre compte Flickr. Un point important est la photo du jour, bien entendu. Puis monter une exposition, ce fut un grand challenge. Première exposition officielle de la MONUSCO en 15 années ici. Cette exposition a eu lieu ici à Kinshasa, à l'Halle de la Gombe. C'est un franc succès, puis l'exposition est devenue itinérante en passant par Lubumbashi, Goma et d'autres dates à venir à d'autres endroits du pays, éventuellement à New York. Mon temps libre, lorsque j'en ai, j'essaie de me reposer. Martin Kobler est une personne très dynamique, très active, très exigeante, souvent sur le terrain, beaucoup de voyages, beaucoup de travail, des nuits courtes, mais des journées fabuleuses en termes de travail, ce que me donne le pays, ce que me donne le peuple congolais également. Donc lorsque je reviens de mission, généralement je me repose, Sinon, quand j'ai du temps libre, du sport, du basketball, j'aime bien lire. J'adore la littérature, notamment le courant littéraire du Real Maravilloso, un courant littéraire latino-américain. Le réalisme magique en français, avec des auteurs comme Julio Cortázar, Borges, Arguedas. Je m'intéresse d'ailleurs à la littérature congolaise, elle aussi. Les mathématiques congolaises que j'ai lues, Tram 83, oui, dans la ville-pays. Un grand moment de plaisir de lire ce livre. Sinon, le cinéma documentaire, comme je l'évoquais tout à l'heure, j'ai beaucoup travaillé dans la réalisation. Donc le cinéma d'auteur indépendant m'attire beaucoup. Pour la musique, moi je suis assez éclectique au niveau de la musique, tous les genres, à partir du moment que la musique est bonne, ça peut autant être de la musique électronique, expérimentale, comme de la bonne salsa latino-américaine ou du jazz congolais. Les mets préférés, j'adore la cuisine péruvienne, pour être honnête, voilà, le ceviche, l'un de mes mets préférés. Oui, la cuisine asiatique, tout ce qui est fruits de mer, poisson. Projet d'avenir, continuer au sein de cette mission, au sein de cet organisme pour quelque temps, je pense, essayer de développer des choses dans le domaine du train qui est en marche au niveau du multimédia, tout ce qui est interactivité, le web documentaire, les réalisations de films à 360 degrés, ce qu'on appelle plus communément la virtual reality, la réalité virtuelle, avec les casques qui vous permettent de vivre une expérience à 360 degrés. J'espère que la MONUSCO saura rebondir et me donner l'opportunité de me plonger dans ce domaine et d'essayer de développer des choses ensemble. Surtout ici au Congo, c'est un pays qui a beaucoup à offrir, sur lequel on doit et on peut communiquer énormément. Merci, au revoir.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Deux journées internationales à noter dans votre agenda pour la semaine prochaine. 1er octobre, c'est la journée internationale pour les personnes âgées. Et le 2 octobre, c'est la journée internationale de la non-violence. Retenez aussi que le procès Jean-Pierre Bemba et consorts dans l'affaire subordination des témoins s'ouvre ce mardi 29 septembre à la Cour pénale internationale à La Haye. Vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission coordonnée par Jean-Pierre Elali Coco. Honoré Missengakala l'a été au reportage et Nadine Foulantimba vous l'a présenté. Vous pouvez retrouver ces numéros sur les sites des Radio Capi, www.radiocapi.net. Rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau numéro. Au revoir.